BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver dans cette émission. On est avec vous, on répond à toutes vos questions avec nos experts. Il y a une adresse à connaître, Sofiane.
Avec vous, à bfmbusiness.fr. Comme tous les jours, nos experts répondent à vos questions. Et puis, le live LinkedIn et le live sur X, vous pouvez poster vos commentaires. Et jusqu'à 13h, nos quatre experts sont là pour vous répondre.
Et je vais vous les présenter, ces experts. Notre juriste, Sabrina Kemel, avocate associée au cabinet FTMS. Bonjour, Sabrina.
Bonjour, Sandra.
Beaucoup de questions très concrètes à vous poser aujourd'hui. Ludovic Badou, auto-entrepreneur, créateur du podcast des indépendants sur BFM Business. Comment ça va, Ludovic?
Ça va super bien,
super
Sandra.
Super en forme.
Et vous?
De l'orthographe, du vocabulaire, des choses à nous,
j'ai
à nous apprendre.
J'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui.
C'est génial. Maître Capello qui est avec nous aujourd'hui.
À vos côtés, Caroline Mignot, entrepreneur, créatrice du podcast Marketing Square. C'est bien
exactement
cela. Et on va parler de réseaux sociaux, on va parler de comment on se met en avant quand on est patron particulièrement. Merci beaucoup de nous rejoindre dans cette émission, Caroline. Jonathan Gozard est à vos côtés, recruteur au Mercato.
Bonjour.
De l'emploi, vous allez bien?
Très bien, ravi de vous retrouver.
C'est parti alors pour cette émission du vendredi. Première question, Sofiane.
Une question pour Ludovic Badeau, la première. Je vais débuter une activité de VTC. Est-ce que je dois déclarer ce que le client paye à Uber ou ce que Uber me paye?
Ludovic.
Alors c'est une très bonne question. Alors il faut savoir que maintenant, il va y avoir le système des précomptes, c'est-à-dire que ce sont les plateformes qui vont déclarer automatiquement aux administrations, et on en a déjà parlé, les cotisations, et qui vont d'ailleurs les verser pour le compte des VTC. Donc en fait, cette question qui pouvait se poser avant ne se pose plus, puisque ce sont les plateformes elles-mêmes, et donc vous touchez finalement, les VTC touchent un revenu net.
Donc en fait, on n'a plus à se préoccuper de ça.
Exactement, c'est ce qu'on appelle les précomptes, qui est vraiment une innovation, une nouveauté dont j'ai parlé, qui était une vraie surprise, parce qu'il y a encore 3 ans, c'était même pas un sujet, puisque c'était vraiment à l'indépendant de déclarer ce qu'il gagnait. Et là, ce sont les plateformes qui vont le faire. Mais de manière générale, on déclare ce que l'on touche hein, quand on est auto-entrepreneur,
ouais.
Et on paye des cotisations sur ce que l'on touche. Voilà. Donc si Uber, admettons, touche plus, mais me reverse qu'une partie, c'est cette partie que je vais toucher, que Uber va me reverser, qu'il faudra déclarer.
Dans l'attente de cette déclaration, posez vos questions à notre spécialiste ici présent, Ludovic Badeau. Je les trouve très intéressantes, ces questions, effectivement.
Elles sont concrètes.
Très concrètes. Et on est un peu dans le flou tous les ans à la même période. Donc,
surtout que ça change, surtout qu'il y a des évolutions comme le précompte qui est quand même un gros changement.
Tous les ans, exactement. Donc posez-nous vraiment vos questions à ce sujet si cela vous intéresse. Question
suivante.
Et
envoyez vos déclarations de revenus à Ludovic Badeau, il les remplira pour vous s'il faut.
J'ai déjà assez de la mienne à faire.
Une question pour vous. Vous, Caroline, je souhaite me lancer sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est trop tard,
Caroline?
Si on a loupé le virage TikTok, par exemple, faut plus le prendre?
Ah, le virage TikTok, non, il se prend tous les jours, ce virage-là. Au contraire, plus que jamais, il est temps de se lancer de zéro sur les réseaux sociaux, puisque justement, les réseaux sociaux se TikTokisent, que ce soit LinkedIn, YouTube ou encore Instagram. On évolue vers des algorithmes qui vont de plus en plus privilégier des profils neufs pour créer des buzz rapides, des étoiles montantes et faire en sorte qu'on passe de plus en plus de temps sur les plateformes. Donc oui, c'est le bon moment pour se lancer. Non, il n'est pas trop tard. Au contraire, tous les réseaux sociaux évoluent vers cette tendance.
On commence par quoi alors? Si j'ai pas de réseau, je fais quoi? Je commence par LinkedIn,
oui,
par
TikTok. Parce que c'est pas la même chose de se lancer. TikTok, c'est quand même un réseau très particulier. Mm-hmm. Comparé à tous les autres, ça nécessite une certaine forme.
Donc, je danse bien,
Sandra. Ouais, non, je danse bien, mais enfin, justement, telle est la question. Donc, on fait comment? On se fait aider? On prend quelqu'un qui fait que ça?
Alors, on peut pas forcément se faire aider, surtout quand on se lance, quand on est indépendant, on n'a pas forcément les moyens. La meilleure chose à faire, c'est déjà de commencer par regarder. Et ce qui est très flagrant dans l'algorithme TikTok, c'est que justement, c'est un algorithme basé sur les centres d'intérêt et non plus le réseau. Donc avant, sur LinkedIn, on avait en général la chance d'avoir un réseau établi depuis 15 ans, beaucoup d'abonnés, et puis du coup, dès qu'on appuyait sur le bouton publier, on avait un succès instantané. TikTok rabat un petit peu les cartes, et finalement, à partir du moment où Ludovic a envie de regarder du football le soir, de la nourriture à midi, on va lui servir ce qu'il a envie de regarder à l'instant T. Donc ça laisse de la place pour pouvoir justement émerger, à condition de se nicher. Tout l'intérêt, c'est justement d'avoir un profil qui est optimisé pour une niche en particulier, plutôt que de taper un coup à droite, un coup à gauche et de laisser une empreinte un petit peu confuse.
Ludovic.
Je me suis lancé récemment sur TikTok pour le
podcast. Dans le football.
Non, pas dans le football. Sur TikTok pour le podcast des indépendances sur BFM Business. Et on se rend compte, et je me rends compte, que les formats ne sont pas les mêmes sur Instagram, sur TikTok et encore moins sur LinkedIn. C'est aussi ce qui fait que c'est un vrai travail. Il ne suffit pas d'avoir du contenu qu'on balance sur sur toutes les plateformes et on se dit je vais avoir un maximum de visibilité. Ouais. C'est pas du tout les mêmes langages.
Mais c'est chronophage parce qu'il faut s'adapter à toutes ces plateformes.
C'est chronophage, c'est un vrai travail. Effectivement.
Ça dépend pas de l'objectif poursuivi aussi. Je suppose qu'un avocat, par exemple, ira moins sur TikTok, mais plus sur LinkedIn.
Non, mais est-ce que c'est pas la cible qui est important, surtout, Jonathan?
Non, et nous, c'est un outil qui est assez régulier. On a des candidats qui arrivent à 30-40 ans, qui se retrouvent au chômage, qui doivent retrouver un travail, qui n'ont pas du tout de compte LinkedIn parce qu'ils ont fait déjà leurs 15-20 ans de carrière dans la même entreprise. Ils doivent s'y mettre. Donc, on les accompagne. Les alternants, c'est un bon moyen aussi avec Instagram, TikTok, etc., de mettre peut-être en avant leur candidature de manière un peu plus originale pour se faire remarquer. Et trouver leur alternance. Donc, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un peu tout le temps le bon moment. Il faut se lancer.
Caroline,
en parlant des avocats, très bon exemple, Avi Bitton sur TikTok, avocat le plus suivi de France. Il s'est lancé il y a un an seulement. Il génère chaque mois des millions de vues et il va rafraîchir sa clientèle. Donc, se faire recruter par des nouvelles audiences.
Mais il a trouvé le truc sur la forme, il a trouvé le truc sur le sujet. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris, d'après vous ?
Alors, sur la forme, il est accompagné par nous. On a une agence de création de contenu qui s'appelle l'Agence Personnelle.
Oui, c'est ça, mais ça veut dire que ça ne s'invente pas.
Mais Sandra, il a fait un truc très courageux avant, que je donne toujours en conseil aux gens, c'est essayer par vous-même. Et Avi, et si vous scrollez sur son compte, vous verrez, il a laissé toutes ses vidéos d'avant, avec pas les mêmes résultats, mais déjà, vous connaissez la force, vous êtes journaliste, de l'effet cumulé, d'avoir commencé par vous-même à vous entraîner devant la glace, devant nos parents, et puis devant de plus en plus de gens, ben ça, c'est important. Donc, commencez maintenant.
Oui, gardez vos anciennes publications, c'est la garantie d'une bonne partie de rire tous ensemble.
Et nichez-vous.
Allez regarder les comptes de Sandra. Nichez-vous. Réagissez évidemment à tous ces sujets.
Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
Sofiane.
Et vous avez réagi à la question du jour. Faut-il limiter l'écart de rémunération entre les patrons et leurs salariés ? Car en 2022, les dirigeants du CAC 40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leurs salariés, soit une augmentation d'environ 17% depuis 2019, avant le Covid, selon Oxfam. En 1979, à titre de comparaison, ils ne gagnaient que 40 fois plus. On a un exemple très parlant, l'exemple maximum, c'est Téléperformance. Le PDG gagne là-bas 1453 fois plus que le salarié moyen de son entreprise. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur nos réseaux sociaux. On fait un premier tour. C'est Rémi, conseiller en assurance, qui dit « Que dire d'un petit patron qui a deux salariés ? Lui, il bosse 78 heures par semaine, ses salariés 35 heures. Il ne prend qu'une semaine de congé par an. Eux, 5 semaines de congé. Bref, quelle justice ! » À l'inverse, Cyril, qui est comptable, nous dit « Je suis surtout d'avis d'indexer le taux d'augmentation des salariés sur ceux de la direction. »
Mais oui !
Ça peut aller plus vite, il y a des primes, pourquoi pas. Et Gérard, qui est ingénieur, nous dit « Beaucoup de patrons français du CAC 40 se font rémunérer plusieurs millions et à côté, ça délocalise un max avec des PSE. Je parle d'expérience. Alors oui, faudrait limiter leur salaire. Ceux qui investissent en France, en revanche, qui ne suppriment pas des emplois, eux pourraient conserver leur bonne rémunération. Vous êtes quel côté, Ludovic ? Plutôt team Rémi ou Cyril et Gérard ?
Moi, j'ai jamais été choqué par les rémunérations des grands patrons à partir du moment où l'entreprise, elle se développe, à partir du moment où elle emploie, elle développe de l'activité en France. Alors, je sais, on est sur BFM Business, donc que dire d'autre ? Non, mais c'est un regard business, c'est la vérité.
Tout n'est pas non plus comparable et c'est vrai que le petit patron n'aura pas cette situation-là non plus. On peut pas mettre tous les patrons dans le même sac.
Évidemment. Non, tous les petits patrons, effectivement, il y a des petits patrons qui s'en sortent aussi très bien. Donc, effectivement, comparaison n'est pas raison. Et moi, je suis pas du tout, par exemple, sur la situation de Bernard Arnault, qui a souvent été critiqué, etc., c'est quelque chose qui ne m'a absolument jamais choqué, parce que quand on voit les résultats et quand on voit la richesse qu'il produit pour la France, je suis désolé, il est là le bénéfice pour le pays, donc c'est absolument pas choquant, je trouve.
Ce ne sont pas les mêmes responsabilités.
Oui. Exactement, oui, c'est aussi une question de responsabilité et de risque, c'est ça qu'on paye aussi.
Jonathan. Non, je disais, si je pouvais ajouter, c'est que souvent, quand on saisit comme ça un problème, on va aller chercher des solutions, hein, puisqu'on adore faire ça. Je lisais ce matin un article qui disait qu'il y avait des idées de peut-être lancer une rémunération au même titre que le SMIC, d'instaurer une rémunération maximum. Et il y avait un intervenant qui disait attention, parce que le fait d'instaurer une rémunération maximum, en fait, les personnes qui n'y sont pas encore, elles vont toutes se dire oh ben, je peux aller jusqu'au maximum, j'y suis pas encore. Donc, des fois, c'est un peu le double effet qui se coule. De vouloir mettre des limites, c'est de se dire on va les atteindre. Et après, je suis assez d'accord avec ce que disait le téléspectateur sur le fait que moi j'accompagne plutôt des petits patrons, j'en ai même eu un dernièrement qui ne se rémunère pas du tout parce que l'entreprise est en difficulté, il va privilégier bien sûr les salariés avant son propre salaire, donc c'est à mettre en relation aussi là-dessus.
C'est beaucoup ça pendant la période de chômage partiel.
Exactement, tout à fait.
Beaucoup de patrons se privaient de rémunération pour maintenir celle de leurs salariés, il ne faut pas l'oublier.
Ouais. Ludovic.
Non, et puis si vous mettez des plafonds, vous perdez aussi en compétitivité par rapport à la France. On l'a vu avec la SNCF, la galère pour trouver il y a quelque temps un DG parce que c'était plafonné et personne voulait s'y essayer quand on voit la complexité de l'entreprise et les responsabilités que ça représente.
Oui.
Donc effectivement, quand l'entreprise performe et quand on voit le niveau de responsabilité, c'est normal que la rémunération soit plus qu'à la hauteur. Moi, ça ne me choque absolument pas.
Oui, on pleurera quand même pas sur sa rémunération. Il y a des téléspectateurs
ils ont eu du mal à recruter. Je ne m'abuse, ils ont eu des difficultés.
Oui, ils ont eu des difficultés à recruter, tout à fait.
À cause de la rémunération.
Quand la négociation n'est pas là, on peut le mettre en miroir avec la fonction publique. Les salaires sont cadrés, sont normés dans des grilles. Ils ont énormément de mal à recruter parce qu'ils n'ont pas de négociation possible. Donc, partout où il n'y a pas de négociation possible, où c'est cadré, derrière, on a forcément du mal à recruter.
On a une petite réaction sur LinkedIn.
Oui, Youssef nous remercie à l'instant pour cette émission. Merci de nous écouter.
Exactement.
Merci à vous. Et puis, Gauthier qui nous dit: que pensez-vous de Kering, achat ou méfiance? On la laisse peut-être pour cet après-midi pour BFM Bourse. Je pense
que c'est là que ça va se débattre.
Guillaume Sommeret et son équipe seront mieux à même de répondre que moi sur l'achat ou méfiance en parlant de Kering.
La question suivante.
Une question, celle de Léopold pour Sabrina. Mon employeur a mis en place un PSE à l'issue duquel j'ai adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Le fait d'y avoir adhéré m'empêche-t-il de contester mon licenciement?
Sabrina.
Alors, absolument pas. Déjà, le contrat de sécurisation professionnelle, c'est un contrat auquel le salarié peut adhérer. C'est dans les entreprises de moins de 1000 salariés. Et donc, qui permet de maintenir un certain niveau de rémunération pendant une certaine durée. Le fait d'y adhérer n'empêche pas un salarié de contester son licenciement, de contester le motif économique de son licenciement ou de contester le manquement à l'obligation de reclassement, puisque l'employeur, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est contraint de reclasser ses salariés, du moins d'essayer de reclasser ses salariés de façon loyale et sérieuse. Et donc ça, c'est contestable. Si le salarié estime qu'il aurait pu être reclassé sur tel ou tel poste et l'employeur ne l'a pas fait, eh bien il peut contester devant le conseil de prud'homme.
Une petite question et réaction de Denis sur LinkedIn qui nous dit: n'y a-t-il aucune limite aux rémunérations des grands patrons? C'est à partir du moment où c'est dans le privé, c'est pas plafonné?
Ben non.
C'est ça la règle?
Non, c'est pas plafonné. Et puis, je pense que c'est grand patron, petit patron, c'est compliqué d'imposer des limites. Je veux dire, vous montez votre boîte et puis on va vous dire, tu limites ta rémunération. Ouais. Enfin, non mais
c'est vrai, ça pose tout un tas de questions derrière sur l'économie globale du pays.
Oui, et puis quand on crée sa boîte, on a généralement une motivation pécuniaire
sûr,
et on a surtout pas envie d'avoir un plafond sur sa rémunération. Enfin, avant qu'on encadre la rémunération des petits patrons, je pense qu'il y a une certaine marge, mais effectivement, c'est presque culturel en disant si vous êtes bon, c'est normal que vous soyez bien payé.
Oui, c'est ça, effectivement. Sofiane.
Une question pour notre expert recrutement et management. Jusqu'à présent, j'ai joué le jeu de former des jeunes en prenant des apprentis. Mais une fois formé, il quitte l'entreprise. Beaucoup de temps engagé pour rien, nous dit Johanna. Comment m'assurer qu'il reste après leur alternance? On va pas peut-être lier les points et...
C'est quand même une situation que j'entends souvent, effectivement. Déjà, je pense qu'il faut se dire qu'un alternant, un apprenti, c'est au même titre qu'un candidat lambda. Hein, c'est une forme de risque quand on recrute. On a beau recruter en CDI, on n'est pas sûr qu'un an après, le candidat soit toujours dans l'entreprise. Donc, il faut le même parcours d'intégration qu'un candidat lambda, et voire même une intégration un peu plus renforcé. Alors c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps puisque l'objectif quand on prend un apprenti, c'est de le former. Après, il faut faire la différence entre le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Professionnalisation, insertion professionnelle, contrat d'apprentissage, c'est obtention d'un diplôme. Donc on n'est pas, c'est pas l'objectif,
c'est
pas n'est pas l'embauche à la fin. Après, moi j'incite vraiment Johanna qui nous pose la question de vraiment être clair avec l'apprenti dès le début. Comme je le dis, c'est pas naturel d'être embauché à la fin forcément de son contrat d'apprentissage. Donc c'est dès le plus tôt possible de dire: j'ai l'ambition de vous embaucher, de vraiment établir les règles de manière à ce qu'elle puisse potentiellement se projeter.
Et ce qui l'empêchera pas de partir, c'est
elle. Ce qui l'empêchera pas de partir. Donc il faut vraiment que les conditions soient bonnes. Il faudra qu'elle remarque qu'il y a une petite capacité d'évolution en interne quand elle aura obtenu le diplôme, parce que du coup, et sinon elle va se cantonner à des missions peut-être un peu parfois redondantes. Donc il faut vraiment lui montrer aussi les perspectives d'évolution. Une fois qu'elle aura été embauchée, elle changera vraiment de critères.
Là aussi, il faut du dialogue. Hein. On en parle très souvent dans cette émission. On va parler d'une mauvaise blague au bureau dans un instant, Sofiane.
Oui, une question d'actualité. Vous allez sûrement avoir la référence chez vous. Un salarié a fait une mauvaise blague au bureau. Rien de répréhensible, mais je souhaite le sanctionner. En ai-je le droit? Ça se passe chez nos concurrents. On en parle dans un instant avec nos experts.
BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
Et il y a une adresse à connaître. Si vous voulez réagir à nos sujets, on vous la rappelle, Sofiane.
Avec vous, @bfmbusiness.fr pour réagir à tous nos dossiers. Et nos quatre experts sont là pour vous répondre jusqu'à 13h.
Jonathan Gozard, Caroline Mignot, Ludovic Badeau, Sabrina Kemel sont autour de cette table pour vous donner leurs précieux conseils. On a parlé d'une mauvaise blague au bureau il y a un instant, Sofiane.
Et oui, parce que l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, a été suspendu par son employeur après ses propos sur Benjamin Netanyahou. Je vais pas vous demander ce que vous pensez du fond de l'affaire et de la blague, c'est pas le sujet ici, mais on parle d'une procédure disciplinaire. Il a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. Déjà, Sabrina, est-ce que l'employeur est dans son droit de mettre à pied directement à titre conservatoire en vue d'une éventuelle sanction?
Oui, l'employeur est dans son droit. S'il estime qu'il a commis une faute, il le met à pied. Après, est-ce que la mise à pied est fondée ou non, c'est autre chose. Mais l'employeur est parfaitement dans son droit.
On parle là de rupture de contrat pour faute grave. Ça marche pour tout type de contrat. L'humoriste a précisé qu'il était en CDD. Et là, peu importe le type de contrat.
Oui, et en CDD, en plus, le CDD ne peut pas être rompu pour toute cause, mais la faute grave peut entraîner la rupture d'un CDD.
Ah oui, d'accord, donc c'est peut-être plus compliqué, c'est l'une des façons de rompre le contrat.
Oui.
D'accord. Et là, en l'occurrence, la plainte, il y a eu des plaintes d'auditeurs, de téléspectateurs, le visant pour provocation à la violence et à la haine, qui ont été classées sans suite. Et Guillaume Meurice dit, le procureur a dit, c'est bon, est-ce que l'employeur peut se substituer comme ça à une décision juridique ou est-ce que c'est très séparé en fait?
Alors, ce sont deux silos autonomes. Maintenant, en pratique, quand vous avez un classement sans suite, si vous licenciez le salarié pour les faits qui ont conduit au classement, bah, votre licenciement derrière, vous prenez un mur, très oui. Clairement. Là, de ce que je comprends, il y a eu un premier classement sans suite pour les faits dont oui. Vous évoquez, Sofiane, et la blague a été
réitérée.
Voilà, donc une nouvelle procédure disciplinaire peut avoir lieu, mais compte tenu du précédent classement, il est probable qu'un nouveau classement ait lieu. Mais les silos sont autonomes, hein, il y a une dichotomie entre le pénal et puis le civil, le droit du travail.
Et là, c'est-à-dire que la juridiction peut passer après ça et dire, non, vous l'avez sanctionné ou licencié pour rien, et donc recasser devant les prud'hommes, quoi.
La juridiction, vous voulez dire
les prud'hommes peuvent casser la décision et dire de la faute
bien
grave.
Sûr.
Donc
bien
on peut
sûr,
repartir pour une nouvelle sanction.
Bien sûr, et allouer des dommages et intérêts aux journalistes, oui, tout à fait.
On suivra cette affaire. Une réaction de Youssef sur LinkedIn, Sandra. Moi, je suis pour un salaire de base minimum généralisé dans l'entreprise, nous dit-il. Mais en contrepartie, on peut augmenter les primes de rendement. Est-ce qu'il faut jouer sur ce variable, peut-être pour inciter à la performance, finalement?
Les primes, les entreprises jouent déjà beaucoup sur, sur ce variable-là. Jonathan?
Oui. C'est même ce qui est regardé le plus, moi, dans les offres d'emploi. Ce que je mets en avant, c'est les fameux avantages. Et à côté, il y a la rémunération de base. Mais tout de suite, la question qu'on me pose quand j'ai un candidat au téléphone, c'est est-ce qu'il y a des primes? Est-ce qu'il y a un 13e mois? Est-ce qu'il y a une prise en charge du panier repas? Est-ce qu'il y a une prise en charge du transport?
Oui.
Donc, les employeurs ont déjà la main mise là-dessus. Et après, sur le salaire minimum généralisé, bon, c'est le SMIC. Hein.
Mais oui. Des primes soumises à objectifs?
Alors, pas forcément. Des fois, ça dépend. Alors, il y a des objectifs, il y a des primes type intéressement qui ne sont pas soumises à l'objectif direct du salarié, mais à la productivité générale de l'entreprise. Après, il y a des primes qui sont données de complément. Ça se fait beaucoup dans la fonction publique. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la marge. On va mettre une prime, par exemple, de fonction, puisqu'on est dans une fonction de direction, mais on n'est pas dans la bonne catégorie. Donc, on va combler le manque d'autonomie.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ces primes sur objectif, finalement, c'est pas pour donner plus d'argent dans la négociation pour pas augmenter directement le salaire de base et finalement, il n'y a pas de réel objectif. On la donne à la fin, à la PO, et puis c'est réglé, quoi.
Alors, ça peut arriver qu'elle soit pas donnée, quand même. Attention, hein, je voudrais pas donner ce message-là. On a notamment des primes d'assiduité, des primes de ponctualité, etc. Là, j'ai déjà vu plusieurs cas où les primes avaient été supprimées aux employés. Mais justement, on va dire que quand on a les supprimées, on arrive dans le moment de dialogue, un peu ce qui a peut-être manqué chez vos confrères. Moment de dialogue où là, on va mettre en jeu ce genre de choses avant d'aller dans des plaintes et ce type de procédure. Et
Sabrina,
petit point juridique, puisque je suis là pour ça.
Oui.
Les objectifs doivent être fixés par l'employeur. Non mais alors ça, je le vois à chaque fois. On se retrouve avec des salariés qui demandent un rappel de prime d'objectif en fin d'année et l'employeur me dit ben non, il n'a pas rempli ses objectifs, donc non. Sauf que les objectifs n'ont jamais été fixés. Et là, l'employeur doit payer l'intégralité de la prime. C'est donc bien, il faut faire attention, ouais. Employeur, fixez bien les objectifs par écrit dès le début d'année.
Réagissez à tous nos sujets sur notre adresse.
Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr.
Sofiane.
Une question pour Maître Capello, Ludovic Badeau. On a une question, qu'est-ce qu'un funnel de vente?
Bon, pas dans le marketing là.
On s'est pas trompé. C'est pas un T à la place du F.
Non, c'est effectivement.
Vraiment
c'est
un funnel.
C'est un funnel.
C'est un funnel.
Ouais. C'est en anglais, Caroline.
Exactement.
Exactement. Voilà, c'est si bien anglais. Funnel de.
Final. Sorry.
Je parce que certains auditeurs aiment pas les anglicismes.
Ah oui, je vais me prendre des
business. Attention. Hein,
évidemment, effectivement, bon. Ça veut dire tunnel, mais bon, on préfère l'anglicisme. Mais c'est tout simplement en fait un entonnoir de vente où on va avoir différentes étapes. Donc, on va faire rentrer un prospect, par exemple, en proposant un livre blanc pour démontrer son expertise. À plus 4 jours, on va renvoyer un email en disant est-ce que vous avez lu le livre blanc? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi pas intégrer derrière un message sur LinkedIn, ensuite un appel téléphonique, etc. En fait, c'est vraiment un tunnel, voilà, un tunnel où on va mettre des étapes automatisées qui vont, entre guillemets, pas laisser penser que c'est fait de manière manuelle parce que maintenant plus personne n'est naïf, mais qui vont faire maturer le prospect, l'experte du marketing. Elle est là, c'est Caroline Milliot.
Alors,
je ne vais pas me tromper dans les mots, mais c'est effectivement très utilisé par les indépendants parce que ça rejoint les principes d'automatisation. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait quand quelqu'un s'intéresse à notre activité, parce qu'on sait qu'il ne va pas acheter tout de suite, pour développer une relation, sachant qu'on ne peut pas tout faire manuellement. Donc on va réfléchir comme ça à un tunnel avec des étapes. Et peut-être l'objectif, c'est que dans 3-4 mois, la marque soit véritablement rentrée dans la tête du prospect et que quand il a vraiment un besoin qui est déterminé, il va avoir le réflexe finalement de nous appeler grâce à ce processus d'automatisation. Et vous avez beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Et il faut le faire. Je trouve, absolument essentiel. Au début, on peut avoir tendance à le négliger parce qu'il faut s'approprier les outils. Il faut imaginer des étapes, des mails, des messages, des livres blancs, ce que vous voulez, pendant 4-5-6 mois. Ça peut être un peu fastidieux, mais c'est extrêmement puissant pour développer une activité quelle qu'elle soit.
Sur le plus long terme, ouais. Caroline.
Mais c'était excellent, Ludovic.
Bien, voilà. J'ai rien à
rajouter. Validé.
C'est les différentes phases de considération d'un prospect, du coup, qui découvre pour la première fois le service, jusqu'au moment où il devient client. Donc, ça va être cette robe, Sandra, que vous avez repérée, qui vous poursuit partout en ligne, que vous soyez dans votre adresse email ou en train de regarder un autre site.
Voilà, vous voyez,
elle me suit, elle-même.
Donc, voilà. C'est ça, le tunnel de vente. C'est toutes les phases, en fait, de considération avant l'achat.
Oui, c'est ça, c'est le truc. Je suis là.
Il ne faut pas craquer.
Non, il ne faut pas craquer. Nous, c'est ça, c'est comme ça qu'on réagit. Sofiane.
Une question de Marina, c'est une question juridique. Mon employeur me demande de participer à un séminaire à l'étranger. Il veut me loger dans une chambre partagée avec un ou plusieurs autres salariés. Je souhaiterais avoir ma chambre seule, mais il me dit que si c'est le cas, je dois la payer moi-même. Est-ce légal? Puis-je refuser de participer au séminaire?
Sabrina.
Elle peut refuser de participer au séminaire. Alors, ça dépend aussi quel est l'objectif de ce séminaire. Je pense que c'est un séminaire professionnel, mais ça doit être sans doute un team building, j'en sais rien. En tout cas, le salarié peut refuser de participer à un séminaire. Alors, s'agissant de la chambre seule, oui, bah écoutez, je pense que c'est aussi une question de coût pour l'employeur. Donc, les salariés n'ont pas le choix. En fait, ce sont des chambres qui sont partagées. Puis, si elle veut une chambre seule,
oui, c'est un argument qui est justifié finalement.
Bien sûr.
Ouais.
Ouais, on pousse le séminaire jusqu'à faire chambre commune. On peut comprendre qu'elle n'est pas très contente quand
oui,
même.
Oui, c'est vrai, on n'est pas forcément.
Elle peut refuser.
Oui,
elle peut refuser. Mais oui, je comprends. Question de négociation. Sofiane.
Une question pour vous, Caroline. Combien de temps faut-il pour percer sur un nouveau canal, surtout si c'est un funnel? Ça peut être un peu plus compliqué.
Combien de temps faut-il pour percer sur les réseaux sociaux? Il y a un truc qui marche très bien et qui permet très facilement de se faire la main, d'avoir beaucoup de réponses en très peu de temps. C'est le challenge. C'est pour ça que vous les avez peut-être déjà vu passer
le défi
sur les réseaux sociaux.
On en a parlé, ouais.
L'idée, c'est un post par jour. Ça, en fait, ça marche hyper bien parce que vous allez avoir beaucoup de réponses versus notre rythme habituel quand on essaye quelque chose, c'est-à-dire une semaine, le post suivant 3 semaines après, et puis après, on se dit, ça marche pas, j'en ai fait 2, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que c'est encore une fois cet effet de ruissellement sur les réseaux sociaux qui prime. Donc, tout le travail qu'on voit pas avant le post qui buzz, ouais, c'est justement cet entraînement quotidien. Donc, voilà, combien de temps faut-il pour percer? Le mieux, c'est de faire un challenge de 30 jours, de vous dire, ok, je teste un poste par jour. À la fin, au pire, vous avez perdu 30 jours, mais vous avez compris plein de choses sur les sujets qui fonctionnent ou pas sur votre profil.
Est-ce qu'on embauche quelqu'un pour faire ça? Je veux dire, on a une petite structure et c'est inévitable aujourd'hui d'avoir ce genre de stratégie. Ça prend combien de temps par semaine, Caroline ?
Honnêtement, avec les nouveaux outils, c'est assez bluffant, particulièrement la vidéo. Donc évidemment, j'ai une agence de création vidéo, donc je devrais vous dire qu'il faut passer par une agence, mais pas du tout.
Osez la vidéo.
Aujourd'hui. Aujourd'hui,
non, elle dit qu'elle n'en a pas besoin de vous.
Avec un smartphone, c'est assez hallucinant ce que vous pouvez commencer par produire. Hier, je discutais avec un ami qui a une chaîne qui fait des millions de vues sur TikTok. Il commence à travailler avec ses premières marques et lui, ce qu'il aime, c'est la course à pied. Alors, il est employé chez DocuSign, donc il a un vrai travail de bureau, cadre, émérite, tout ce que vous voulez, très sérieux. Et puis le soir, lui, ce qu'il adore, c'est la course à pied. Et du coup, sur TikTok, il fait une voix off. Il ne montre jamais son visage, il a une voix off. Et puis, il jette des vêtements, des chaussures de sport et il fait des blagues. Et puis, vous voyez, ce compte est en train d'émerger et il est lui-même un peu étonné et dépassé par ce succès qu'il n'attendait pas.
Ludovic.
Il y a un terme, et là je vais vous apprendre un nouveau mot, c'est le batching, c'est ça pour faire, le batching qui consiste à se dire, ok, pendant 2 jours, je vais écrire par exemple mes 30 posts. Ça veut dire on se met vraiment en condition complètement tournée vers ça, genre ça, on coupe son téléphone, on s'intéresse à rien d'autre, et pendant 2 jours, on prépare ces 30 posts parce que, voilà, ça va être... Merde, pardon, 30 posts.
Et donc, votre micro.
Et donc, parce que le problème, c'est que quand on se dit je vais faire tous les soirs, etc., on a toujours une excuse pour décaler le truc. Tandis que si on s'enferme pendant 2 jours pour le faire, et ben voilà, ça fonctionne généralement mieux.
Et après, on les programme.
Et après, on les programme.
Et on les sort tous les jours.
Exactement.
La régularité, le ruissellement. Jonathan.
J'essaie, moi, d'être régulier. Je fais une fois par semaine. C'est déjà bien suffisant. Vous êtes en avance, vous êtes une fois par jour.
Oui, c'est vrai. On est une fois par jour minimum.
Je voulais simplement dire, et c'est mon côté garde-fou qui se met là, parce que si on a des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui nous écoutent, il faut que ça soit bien fait quand même. Attention à ne pas dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à se filmer, par exemple, dans son lieu de travail, à critiquer son patron pour faire le buzz, ce genre de choses. Il faut quand même faire attention. Je l'ai
travail.
Vu et ça a été pénalisant pour les candidats. Donc, oui. Je voulais apporter ce point de vigilance tout de même.
Vous faites bien de le dire, Jonathan.
Vous faites comme Marina. N'allez pas au séminaire et préparez vos 30 postes. Comme ça, vous avez tout gagné. Vous ne partagez pas la chambre et vous partagez vos postes.
Il faut pouvoir s'enfermer 2 jours quand même.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Nous, en 2 heures, on fait 30 vidéos.
Ok.
Wow.
Chacun son rythme.
Bien jaloux. Préparé.
Sofiane.
On repasse à la question du jour parce que vous êtes nombreux à réagir à cette question. Faut-il limiter l'écart de rémunération entre les patrons et leurs salariés ? David, qui est créateur de contenu, justement, nous dit il y a patrons et patrons, tous ne sont pas dans le CAC 40. D'ailleurs, c'est qu'une minorité. Après, juste-il, la prise de risque doit être récompensée. Marvin, qui est analyste en gestion de portefeuille, nous dit qu'il est absolument contre le plafonnement des rémunérations. Aujourd'hui, la plupart des grands patrons ont une grosse part variable, ce qui les incite à performer. Et enfin, Dorothée dit, on demande aux patrons d'engager leur bien personnel pour créer leur entreprise. On les oblige à faire des prêts bancaires, ne pas se rémunérer durant plusieurs années et on demande maintenant s'il faut limiter l'écart de salaire avec les salariés. Ouais. On tape trop sur les grands patrons, c'est ce que...
Non, mais le risque doit être récompensé. Quand vous créez une entreprise, vous prenez un risque qui est immense. Hein. Généralement, vous allez jusqu'à hypothéquer votre appartement pour faire des prêts bancaires parce que la banque, elle ne vous fait pas confiance comme ça. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, vous prenez des risques. Parfois, vous dormez très mal pendant longtemps jusqu'à trouver vos premiers clients. Enfin, tout ça doit évidemment être récompensé.
Réagissez sur notre adresse et sur nos réseaux, évidemment.
Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.
Sofiane.
On me demande de rédiger une lettre de motivation manuscrite pour un poste qui me plaît beaucoup. Je trouve ça dépassé. Suis-je obligé de l'envoyer ? Le CV ne suffit pas, nous demande Pierrick.
Jonathan.
Alors, je ne peux que donner raison à Pierrick. Oui, c'est un petit peu dépassé. Néanmoins, si elle est demandée, j'encourage quand même à la faire, puisque, même si, honnêtement, je pense qu'elle ne sera pas lue quand on reçoit 100, 150 candidatures, je vais être honnête, moi, je demande que les CV, donc là-dessus, je suis tranquille, j'ai la conscience tranquille, mais honnêtement, on ne peut pas lire 100, 150 lettres de motivation, ou alors vraiment en travers, et ça n'a pas d'intérêt. Donc là, il faut quand même la faire, parce que ça peut rentrer dans le processus de recrutement, ce qui signifie que si vous n'avez pas mis la lettre de motivation, la candidature va être directement mise à la poubelle, et on ne va même pas regarder le CV.
Ouais.
Après, il faut le voir comme une chance. C'est-à-dire, faut se dire, j'ai pas envie de la faire. Comment je vais le tourner en positif ? Ça peut être se démarquer, de contextualiser ce que vous avez pas pu dire dans le CV. De contextualiser de pourquoi vous êtes en changement de poste. D'essayer de vous démarquer avec ça. Justement, on parlait beaucoup de mise en avant sur les réseaux sociaux. J'ai vu, il y a un développeur web qui a fait le buzz, je ne sais pas si vous avez vu sur LinkedIn ces derniers jours, puisqu'il a mis en photo la lettre de motivation qu'il a envoyée à un employeur. Et donc, c'était marqué, si vous voulez une lettre complètement insipide, tapez 1. Si vous voulez une lettre rédigée comme 95% de celles que vous avez reçues via le chat GPT, tapez 2. Une lettre modèle Google, tapez 3. Et tapez 06, 22, etc. Si vous voulez vraiment qu'on échange sur mes motivations. Donc voilà, c'est assez malin. Alors, c'est un cas extrême. Mais voilà, il a utilisé finalement la lettre de motivation qui est vue comme un peu désuète aujourd'hui, comme un outil pour se mettre en avant. Donc je dis, bah là, il faut le faire et n'hésitez pas à vous démarquer avec ça.
Ça humanise, exactement. Ludovic.
Moi, je pense que je suis un peu ringard parce que jusqu'à récemment, je défendais la lettre de motivation et je disais même à mon associé, je disais, c'est vachement bien la lettre de motivation parce que ça montre aussi la motivation, qu'il y a une démarche, on écrit quelque chose. Enfin, je trouve que c'est hyper important et puis on voit si la lettre de motivation a été personnalisée par rapport à l'activité. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose de fort, et je trouve qu'une candidature c'est quelque chose de sérieux. Et puis en fait, je me suis fait avoir trop de fois par ChatGPT, c'est-à-dire que je recevais des lettres de motivation dernièrement que je trouvais quand même super bien rédigées. Je fais, ah ouais, franchement, ça c'est top, je veux échanger avec cette personne. Et quand je l'avais au téléphone, c'était tout autre chose. La lettre de motivation vaut plus grand chose en réalité aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Il est très facile de faire des lettres de motivation qui sont bien rédigées et qui en fait ne sont pas rédigées par la personne.
CV plus une bonne vieille.
Vaut mieux aller sur des tests de personnalité, genre de choses qui nous permettent de vraiment mieux verrouiller le savoir-être plutôt que des lettres de motivation.
Et on ne les fait pas assez, les tests de personnalité.
Caroline,
c'est pas possible que dans un cadre de process d'embauche, il fasse intervenir un graphologue. C'est un peu
alors
trop
ça
perçu.
Existe.
J'ai pensé à ça.
Non, ça existe.
C'est encore manuel, ça.
Alors ça existe toujours. Je suis dans un club d'affaires où il y a une graphologue, donc ça existe toujours.
Ouais.
Mais en même temps, c'est quand même très rare. C'est quand même très coûteux pour les chefs d'entreprise. On va être vraiment sur certains postes très spécifiques de là à faire
Sabrina.
Intervenir.
Sabrina.
Oui, non, mais moi, je effectivement, on se regardait. Oui, ça fait cher. Et puis pourquoi en vrai? Non, mais quel est l'objectif? On s'aperçoit que c'est pas la personne qui a écrit le courrier. Bon, très bien, vous la recevrez pas. Mais en fait. Vous voyez, en la recevant, vous vous apercevrez aussi très vite que c'est pas le candidat idéal. Oui. Après, les difficultés avec la lettre de motivation, c'est qu'on a des lettres de motivation un peu type. Franchement, vous en prenez une, vous pouvez la filer à plusieurs entreprises. Parce que justement, elles ne sont pas personnalisées. Les gens ne font plus ce boulot de personnalisation.
C'est là où on peut se démarquer avec une lettre de motivation personnalisée.
Je suis d'accord. Mais même les CV, il y a des moments où on peut se demander aussi l'utilité du CV. Alors bien sûr, il y a des grandes lignes dans le CV. Maintenant, je pense que en vrai, le CV, c'est nous. Enfin, vous voyez, le CV, la lettre de motivation, c'est nous, c'est la personne en elle-même.
Sofiane.
Une question justement qui est un peu liée à ça pour Ludovic Badeau. J'entends beaucoup parler d'automatisation, mais pour son business, qu'en pensez-vous?
Effectivement, l'automatisation, c'est hyper important pour les chefs d'entreprise parce qu'en gros, c'est gagner du temps. Il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Par exemple, la prise de rendez-vous. Plutôt que de faire 50 000 échanges par mail, vous êtes dispo quand? Non, finalement, je suis pas disponible là. Vous faites un calendrier qui vous permet effectivement d'avoir, la personne peut choisir une disponibilité dans votre agenda. Donc, ce type d'automatisation, et il y en a beaucoup. La prospection automatisée, c'est ce qui rejoint le funnel de vente, c'est-à-dire d'envoyer un premier message, un deuxième message, etc. Alors, le problème avec l'automatisation, notamment sur la vente, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Et il faut humaniser de plus en plus sa communication.
Oui, c'est mieux quand même.
Oui, complètement.
Et sa prospection. Parce qu'en fait, les mails automatisés, les messages sur LinkedIn, etc., on l'a déjà dit ici, ça perd un peu de sa saveur, les gens comprennent.
Mais après, vous avez du temps pour faire des messages TikTok.
Oui.
C'est ça,
ouais.
Ça.
En fait, on ne dort pas.
Voilà, c'est... c'est ça.
Parce que même sur les outils de gestion de planning comme Calendly que tu mentionnes, aujourd'hui, il y a des évolutions à ces gestionnaires de planning qui évoluent pour faire justement émerger plus ta marque personnelle. Donc tu as directement sur le formulaire de prise de rendez-vous les derniers posts que tu as fait sur les réseaux sociaux, ce qui te permet de maximiser ton impact à porter sur tes posts d'avant. Tu peux redistribuer tes produits, tes offres de services. Donc finalement, ces gestionnaires de rendez-vous deviennent en eux-mêmes des mini-sites visés à convertir. Sofiane.
On a beaucoup de travail pour vous, Sabrine, avec des questions juridiques. Laurent, par mail, nous écrit avec vous à bfmbusiness.fr. J'ai été embauché dans un cabinet comptable comme technicien informatique avec un BTS. Je voudrais faire une licence et un master dans le domaine du management, donc rien à voir. Est-ce que je dois en aviser ma direction? C'est la première question, la première partie
de
la question.
Je pense qu'il est préférable quand même d'en aviser sa direction, puisque s'il est amené à faire un diplôme, c'est ça? Enfin, il va certainement passer, avoir une formation en management. Il va sans doute être amené à s'absenter. Donc oui, il faut qu'il en avise sa direction. Après, la question, c'est comment on va adapter sa rémunération. Est-ce qu'ils vont faire le choix de maintenir sa rémunération, donc de lui, si la formation est intéressante pour l'entreprise, bah, ils peuvent investir sur lui, et puis derrière il continuera à bosser avec son employeur. Ça dépend des entreprises, ça dépend de la formation diplômante qu'il veut passer.
Et puis après, adapter ma rémunération, ça peut être dans l'autre sens, parce qu'il dit
est-ce que
l'entreprise va reconnaître mon diplôme, est-ce que ça peut faire monter sa rémunération? Il peut demander à la fin, j'ai eu un master maintenant.
Ça peut, bien sûr, ça va dans ce sens-là aussi. Peut-être qu'il aura aussi besoin d'une journée par semaine pour sa formation, et donc là, la rémunération peut être diminuée. Vous voyez, c'est toute une négociation. Mais évidemment, il faut en parler avec son employeur.
On passe à la boîte aux lettres. Encore une question juridique pour vous, parce que vous nous écrivez à l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr à toute heure du jour et de la nuit. Et Mélanie nous dit « Mon employeur me propose une rupture conventionnelle car il veut réduire sa masse salariale. Je suis en CDI, or je ne suis pas d'accord avec le montant proposé. Il me menace par téléphone, donc pas de trace écrite, de me licencier si je continue à refuser, mais il n'a rien à me reprocher, dit-elle. »
Alors, la rupture conventionnelle, elle doit être faite d'un commun accord. Elle est conclue d'un commun accord. Donc, les deux parties doivent être d'accord. Si Mélanie n'est pas d'accord, aucune rupture conventionnelle ne peut être signée. Donc, la menace, oui, c'est à l'oral. Comment faire pour le prouver? Vous avez beaucoup parlé, lors de vos dernières émissions, des enregistrements clandestins qui, avant, étaient refusés par les tribunaux, qui, aujourd'hui, le sont de plus en plus.
Peuvent servir.
Alors, moi, je ne suis pas une adepte des enregistrements clandestins. Hein. Bon, maintenant, il s'avère qu'il y a des dossiers, effectivement, où ça peut être utile pour les salariés ou pour les employeurs. Mmh. Ça va dans les deux sens. Moi, ce que je conseillerais à Mélanie, pour l'instant, c'est d'écrire, en fait, de tracer ce que son employeur lui dit au téléphone, d'écrire noir sur blanc qu'elle ne veut pas de rupture conventionnelle et que s'il veut réduire sa masse salariale, eh bien, il passe par la voie du licenciement économique, ce qui permettra à Mélanie, derrière, d'avoir des indemnités afférentes au licenciement économique, un contrat de sécurisation professionnelle si on est dans une boîte de 2000 salariés. Mais en tout cas, il faut tracer les choses par écrit. Je préfère ça à l'enregistrement, d'ailleurs. Il faut tracer les choses par écrit, parce que sinon, elle ne va pas s'en sortir. Vous voyez, elle ne va pas se dépêtrer de sa
situation. Et ça prouve sa position à elle. Et
évidemment, évidemment. Ouais. Maintenant, attention, passer par une rupture conventionnelle parce qu'on veut, parce qu'on a des difficultés économiques, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. Mais il faut que le salarié l'accepte.
Sofiane.
Une réaction pour vous, Jonathan, à ce qu'on disait sur la lettre manuscrite. On peut proposer de faire la lettre de motivation en direct lors de l'entretien d'embauche, nous propose Youssef sur LinkedIn.
Pourquoi pas? Alors j'avoue que c'est une bonne idée, j'y avais jamais pensé, j'avais jamais entendu ça, ma foi ça peut être une idée, je vois pas trop encore une fois l'intérêt vraiment immédiat.
Peut-être pour l'orthographe, non? J'imagine,
alors, si c'est fait en direct. Alors si, dans ce cas-là on parle pas d'une lettre de motivation, puisque la motivation on va l'exposer, on va plutôt parler d'un test,
oui,
d'un test de compétences, d'un test technique.
Une dictée.
Voilà, c'est une sorte de dictée.
Le retour de la dictée. Mais,
il faut que ce soit un poste qui ait vraiment besoin d'avoir une maîtrise parfaite de l'orthographe, etc. Mais là effectivement on parle plus de test que d'une lettre de motivation.
Question très vaste pour vous, Caroline, mais vous n'avez qu'une poignée de minutes pour répondre. Que faut-il dire ou pas sur les réseaux sociaux?
Ah oui, effectivement, c'est assez large.
Oui, c'est vaste.
Je pense que ça dépend ce qu'on a envie d'y trouver sur ces réseaux sociaux, avant toute chose. Est-ce qu'on est là pour trouver un travail? Et ça rejoint la question de l'objectif que tu abordais précédemment. Est-ce qu'on est là pour trouver un travail? Est-ce qu'on est là pour chercher des nouveaux clients? Ou est-ce qu'on est là pour devenir le nouvel influenceur dans tel ou tel secteur? En fonction de ce qu'on a envie d'aller chercher sur les réseaux sociaux, comme objectif, on peut créer une marque personnelle plus ou moins engagée. Tu as la marque personnelle professionnelle, où tu ne parles que de ce que tu fais. Ça, c'est la posture d'expert. Les avocats, on en parlait avec Sabina, sont souvent dans ce cas de figure-là. Évidemment, ils ne vont pas commencer à parler trop des à côté ou à partager leurs convictions personnelles. Après, tu as la marque personnelle engagée. Donc là, typiquement, tu vois, sur les journalistes, la frontière est souvent un petit peu perméable et en général, tu as ton travail et tu as les à côté et du coup, tu t'engages sur tout un tas de choses qui te motivent et tu as la marque personnelle suprême et là, tu parles de tes cicatrices, tes croyances, ton passé, ta famille. On a tous des exemples en tête et du coup, voilà, c'est à nous de mettre finalement le curseur en fonction de ce qu'on peut assumer ou pas.
Le petit mot de la fin.
Ça prouve que c'est une réflexion à avoir au début quand on se lance sur les réseaux sociaux, c'est l'introspection. J'en avais parlé avec Mélissa Osmani qui m'accompagne, que tu connais bien sur cette partie-là, et pour définir ses objectifs et pour pas y aller from scratch et se lancer comme ça, quoi.
Exactement.
Les réponses à la question du jour. Sofiane, il est l'heure.
On parlait d'écart de rémunération entre les salariés et les patrons. Faut-il limiter cet écart? Eh bien, c'est très divisé sur nos réseaux sociaux. Quasiment 50-50. 51% de oui sur LinkedIn, 49% de non. C'est un peu différent sur X, 66% de oui, mais 60% de non sur Instagram. Comme quoi, vous êtes vraiment divisé sur cette question à l'image de ce qui s'est passé sur vos commentaires pendant toute cette session de questions-réponses.
De quoi on va parler lundi, Sofiane?
Et oui, éboueurs, cheminots, craignez-vous une grève pendant les Jeux Olympiques? Car les préavis de grève se multiplient. On vous pose la question et vous avez donc tout le week-end pour y répondre. On en parlera des Jeux Olympiques et des enjeux pour le travail, le télétravail, les cyberattaques, etc. à partir de lundi avec nos quatre experts du jour.
Oui, répondez-nous, réagissez, évidemment, on va vous répondre. Fatma nous a écrit également sur le CV et la lettre de motivation. On va bien écouter, regarder cette question et on vous répondra lundi, évidemment. Fatma, merci de nous avoir écrit. On remercie aussi nos experts du jour. Sabrina Kemel, avocate associée au cabinet FTMS, Ludo Bado, créateur du podcast des indépendants sur BFM Business. Merci d'être venu, Ludovic. Jonathan Gozard, recruteur au Mercato de l'Emploi. Caroline Mignot, créatrice du podcast Marketing Square et auteur de ce livre « From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux » aux éditions Erol. Merci d'être venu nous voir dans cette émission, Caroline. Émission à retrouver, évidemment, en replay dans quelques minutes sur notre site. Toutes vos questions également retrouvées dans notre page podcast sur l'appli et le site. Nous, on se retrouve lundi, Sofiane.
Bon week-end, Sandra.
Bon week-end à tous sur BFM Business.
Avec vous sur BFM Business.